l'invité du grand entretien de France Inter. Et ce matin, compositeur, musicien, trompettiste, récompensé plusieurs fois aux victoires du jazz, aux victoires de la musique. Il publie une petite philosophie de l'improvisation aux éditions des Équateurs et un album, First Noël, son 15e, dont on va parler aussi ce matin. Question-réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Ibrahim Malouf, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans ce studio. Ce livre est un petit délice de sincérité. Vous y évoquez longuement l'improvisation qui est à la fois une manière de jouer de la musique, mais aussi de vivre sa vie. Improviser, on va le voir avec vous, c'est une esthétique, c'est une éthique, c'est peut-être aussi une politique. On verra. Vous étiez sur scène, en tout cas, hier soir au Zénith, devant 8000 personnes. Ça va ce matin, bien réveillé?
Pas facile, mais ça va, je suis là.
Vous étiez heureux, j'imagine, de retrouver la salle, le public. Quelle était l'atmosphère alors que l'épidémie de Covid est tout de même en plein rebond et qu'on peut légitimement, sans être parano ou hypochondriaque, se dire qu'il faut faire attention?
Mais le public était super, ils étaient hyper motivés, très heureux d'être là, évidemment presque un peu sidérés que ce concert puisse avoir eu lieu finalement, après avec toutes les chiffres qu'on voit actuellement. Mais on a vraiment passé un moment magique, et voilà, c'est toujours quelque chose qui donne envie de continuer encore à faire d'autres concerts.
On voit que les cinémas, les théâtres ont du mal à retrouver l'ensemble de leur public depuis l'épidémie. Vous-même avez dû repousser votre prochain concert qui était prévu le 20 décembre à Paris, le repousser au mois d'avril prochain.
Voilà, ça sera à Bercy, c'est une grande fête, on est ravis de la faire. Puis voilà,
il faut repousser. Est-ce que le Covid, quand vous regardez maintenant les choses en perspective, puisque l'épidémie dure depuis longtemps, est-ce que le Covid a cassé quelque chose pour la musique et les concerts, pour l'économie du secteur?
Alors ça, je sais pas casser, j'en sais rien, on n'a pas assez de recul, mais il est évident que ça nous handicape considérablement, et surtout les gros événements. Donc je pense que moi je suis assez pessimiste par rapport aux gros événements à l'avenir. Ça va être de plus en plus difficile d'organiser des événements avec beaucoup de monde.
Pourquoi?
Ben parce que vous avez vu toutes les contraintes qui s'imposent de plus en plus. Je suis assez pessimiste là-dessus. J'ai peur que dans quelques années, on se retrouve à devoir faire comme dans les aéroports, quand on va rentrer, même dans les supermarchés, aller voir des concerts. Enfin, à chaque fois qu'il y a beaucoup de monde, on va devoir tout le temps être dans des règles de sécurité, que ce soit sanitaire, comme par rapport au terrorisme, etc. Je vois pas les choses forcément avec un œil très 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 optimiste.
Alors venons-en, Ibrahim Malouf, à cette petite philosophie de l'improvisation. Définition, je vais vous citer. L'improvisation, c'est une lutte intellectuelle et physique entre ma sincérité et ma sensibilité, entre la mise en danger que je considère comme intellectuellement honnête et la reconnaissance de ce que je trouve intéressant, entre la libération volontaire d'idées et l'ordre très précis selon lequel je procède à cette libération. Je trouve que cette définition est à la fois complexe et magnifique. C'est la version littéraire de ce que pourrait être une grande ligne improvisée musicalement. Expliquez-nous ce que vous voulez dire là.
Mais si je devais le dire avec un langage plus simple, plus courant, c'est « mais regardez par quoi on est passé ces derniers temps ». À quel point on a besoin d'improviser chaque jour dans nos vies pour trouver des solutions aux problèmes qui s'imposent à nous, malgré nous. Et les solutions, c'est toujours un mélange entre ce qu'on nous a appris à faire et ce qu'on considère comme étant les bonnes choses, les codes qui nous semblent rassurants, et quelque chose qui n'a rien à voir avec les codes, c'est simplement trouver à un moment un peu de créativité pour récupérer notre liberté d'être, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis moi au départ. Donc ce que je suis au départ, c'est forcément un mélange entre ce qu'on m'a appris à être, parce que je suis aussi l'héritage de mes parents ou de l'éducation de la société dans laquelle je vis, et je l'espère quand même, beaucoup de créativité. S'il n'y a pas cette créativité, je ne suis pas vraiment moi. Je suis
comment
simplement
on joue et comment on déjoue en fait ce qu'on est.
Oui, c'est un équilibre qui va être de plus en plus précieux à l'avenir, il me semble.
Pourquoi vous dites ça?
Encore une fois, je suis naturellement quelqu'un de très optimiste et de très positif, mais j'ai comme l'impression qu'on se pose de plus en plus de questions sur ce que c'est une recherche. Regardez, si vous disiez que c'était un peu de la politique, c'est pas complètement faux, parce que regardez ces derniers temps. les gens en ont marre du basculement gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Mais y a-t-il quelque chose de plus sain qu'un basculement gauche-droite, gauche-droite en politique? C'est ce qui définit même la politique. C'est que il y a un moment, il y a deux équipes, elles sont en concurrence. Il y en a qui essayent d'aller plus dans telle direction et d'autres qui essayent d'aller dans l'autre direction. Mais ma foi, quelque part, c'est normal et c'est sain qu'il y ait cette recherche. C'est normal et c'est sain qu'il y ait ce basculement. C'est la recherche.
L'alternance.
C'est l'alternance, voilà. Et elle est normale, cette alternance. Et à un moment, on est à une époque où les gens en ont marre de chercher. Il faut plus qu'on cherche, il faut qu'on ait une solution. Comme si d'un seul coup, il y avait une réponse comme ça qui tomberait du ciel providentiel à tous les problèmes qu'on a. Comme s'il y avait un homme ou une femme d'ailleurs qui pouvait arriver et régler tous les problèmes de la France ou du monde. C'est absurde. C'est une lubie qui ne peut pas exister. Il faut accepter de chercher. Et pardon, je m'étale un peu là-dessus.
Non,
mais ça vient de notre éducation. Quand on est à l'école, on nous pose un problème de maths ou un problème en général. On nous dit pas. Ce qu'on nous dit, c'est il faut trouver la solution. Allez, concentre-toi pour trouver la solution. Mais non, je vais me concentrer pour chercher une solution. On n'est pas sûr de la trouver. À partir du moment où on me dit il faut la trouver, je vais forcément essayer de, même presque de tricher pour la trouver puisque c'est sur ça que je vais être noté. Alors que si on valorise la recherche, eh ben on a le droit de se tromper.
Et improviser, c'est donc ce chemin. Là.
C'est le chemin.
C'est chercher.
C'est le droit à se tromper, c'est le droit à ne pas savoir et à chercher, c'est la valorisation de l'erreur.
On va revenir tout à l'heure, j'imagine, au standard aussi sur quelques questions politiques, mais tout de même, quand vous parlez de lutte intellectuelle et physique pour décrire l'improvisation, quelle forme ça prend quand vous êtes avec votre instrument, si c'est physique?
Ben, c'est physique parce que, surtout, si, imaginez que vous êtes devant du monde. Moi, hier soir, j'étais devant 8000 personnes. Il y a des moments où j'improvise. Ben, faut encaisser quand même ce truc-là. Parce que les gens vous regardent, ils voient vos défauts, ils voient quand vous n'êtes pas sûr de vous, ils voient vos yeux, vos jambes, éventuellement trembler si vous avez peur, ou trébucher si vous n'êtes pas en face, de vous-même. Et faut être capable d'assumer physiquement cette recherche-là aussi. On est fragile.
C'est une épreuve du corps, donc, l'improvisation aussi.
Oui, on est des êtres fragiles, que ce soit au niveau psychologique, moral, comme au niveau physique. Et parfois, là aussi, faut savoir assumer cette fragilité-là, faut savoir assumer ses erreurs ou ses défauts. Et c'est en acceptant ça qu'on s'assume et qu'on s'épanouit, en fait.
Les mots peuvent sembler contradictoires, Ibrahim Malouf, mais est-ce qu'on apprend à improviser? Vous enseignez. Qu'est-ce que vous enseignez? Une technique? Une disposition d'esprit? Un regard sur le monde?
Quand j'enseigne l'improvisation à mes élèves qui sont issus essentiellement de la musique classique, parce que j'ai décidé à une époque de vraiment me concentrer sur ces élèves-là, parce que pour moi, ce sont vraiment ceux qui ont le plus besoin de savoir improviser. Dans le jazz, ils improvisent. Dans toutes les musiques, quasiment, on sait improviser. Mais dans la musique classique, beaucoup moins. Pourquoi? Parce que, comme dans nos vies, en général, on a reçu une éducation extrêmement forte, parfois un peu rigide, souvent stricte. Et en fait, improviser, ça revient à revenir à un état beaucoup plus ancien de ce qu'on est, c'est-à-dire quand on naît justement, et que y avait encore pas beaucoup de codes et qu'on pouvait encore faire ce qu'on voulait. Et cette libération-là, c'est comme désapprendre les codes. Ça veut pas dire ne plus les respecter, ça veut pas dire ne plus avoir de respect pour les codes, mais simplement savoir vivre sans ces codes-là et finalement avoir beaucoup plus de créativité pour retrouver cette liberté.
Vous nous aidez à corriger une idée reçue, parce qu'effectivement, intuitivement, on se dit que l'improvisation, elle est du côté du jazz, qui en sont les maîtres, et que la musique classique est gravée, elle, dans le marbre des partitions. Vous dites que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert improvisaient.
Oui, c'était tous des très très grands improvisateurs. La plupart, je vois même, devrais dire même pratiquement tous les très grands compositeurs de l'histoire étaient tous des musiciens. Et au-delà d'être des musiciens, c'était des musiciens qui improvisaient sur leurs instruments. Et à partir du moment où on a voulu récupérer tout ce grand répertoire qu'on avait oublié, il y a un siècle et demi, les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait tout ce répertoire. C'est récent, en fait. Et on a créé des écoles, on a appelé ça les conservatoires, parce qu'il fallait conserver cette culture et ne pas la perdre. Sauf que maintenant, le conservatoire est devenu l'école où on apprend la musique. Ce qui est absurde. on devrait appeler conservatoire l'école où on apprend le répertoire qu'il faut pas oublier. Mmh. Mais la musique, ça devrait s'apprendre autrement, ça devrait s'apprendre en s'amusant. On dit bien jouer de la musique, on dit jouer du violoncelle, jouer de la flûte, jouer de la trompette. Et moi, petit, j'avais senti que je m'étais fait un peu avoir. Parce qu'on m'avait dit, est-ce que tu veux jouer de la trompette? Et je disais, ouais, bien sûr. Et là, je me retrouvais à être super sérieux, à travailler des trucs, à pas avoir le droit de me tromper, etc. Mmh. Je dis, mais c'est vous, on m'a menti, en fait, c'est pas ça. Et donc, j'ai essayé de retrouver le plaisir de jouer.
Ouais. C'est votre père qui vous a appris.
Oui, et d'ailleurs, mon père avait une éducation quand même très stricte sur la musique. Ma mère était beaucoup plus libre, me laissait vraiment faire ce que je voulais au piano. Et c'est comme ça que j'ai appris à trouver un équilibre entre le devoir d'apprendre et le plaisir d'apprendre.
Mmh. Ibrahim Malouf, vous êtes né au Liban, pays que vous avez dû fuir enfant avec votre famille à cause de la guerre. Toute mon enfance, nous avons vécu dans l'angoisse de ce qui se passait au Liban et dans la culpabilité des émigrés. Aujourd'hui, le pays s'enfonce inexorablement dans la crise. Le mot est faible, le Liban est en dépression au sens médical du terme, comme le montrait hier un remarquable reportage de notre correspondant à Beyrouth, Aurélien Colli. Comment vivez-vous cette situation ?
Très très mal, comme toutes les personnes qui aiment ce pays. C'est un pays qui était bien parti pourtant, avec une vraie idée de la collaboration entre différentes croyances, de la vie en commun, etc. Et contrairement à ce qu'on entend ces derniers temps, le problème du Liban, c'est pas parce que le pays est composé de plein de communautés différentes, c'est parce qu'on a laissé ces communautés se battre individuellement. C'est-à-dire qu'on les a encouragées à se faire la guerre plutôt qu'à être justement à se construire ensemble. Mmh. Et si c'était à refaire, si j'avais été président, mais heureusement que c'est pas le cas, j'aurais encouragé la vie commune plutôt que la sectarisation et la séparation des pouvoirs.
Quand vous entendez Éric Zemmour déclarer que si on continue comme ça, la France en 2050 sera un Liban en grand, vous réagissez comment ?
Eh ben, je pense qu'il a raison s'il devient président, lui. Parce que justement, ce sont des gens comme ce monsieur et comme des personnes qui cherchent à nous diviser, qui sont arrivés au pouvoir au Liban il y a 45 ans, et c'est à cause de ces gens-là finalement qu'on a divisé le peuple libanais en leur disant vous les chrétiens, vous êtes meilleurs, vous êtes beaucoup plus éduqués que les musulmans, vous les musulmans, vous avez vos frères qui sont à tel endroit, qui sont en train de souffrir, vous les machins, les druzes, vous êtes isolés, vous êtes tout seuls, il faut vous battre sinon on va vous bouffer, etc. Et c'est en fait en disant ça aux différentes entités qu'on a fini par les mettre les uns contre les autres. C'est exactement ce que fait aujourd'hui Éric Zemmour. C'est exactement ce que font en général les gens qui sont dans un peu extrêmes ou très extrêmes dans leur position politique.
Vous faites dans ce livre un plaidoyer pour le partage et pour le métissage. Une culture se construit, se déconstruit, se reconstruit, se renouvelle et s'enrichit de tous les apports extérieurs. Vous ne vous sentez pas un peu seul aujourd'hui avec votre éloge du métissage ? Vous ne croyez pas que ce combat-là a été perdu, ou en tout cas que les idées politiques de l'époque vont aujourd'hui dans l'autre sens ?
Je pense qu'il y a quelques personnes qui font beaucoup trop de bruit. Et qu'aujourd'hui, on a une époque où plus tu fais du bruit, plus t'as raison. Non, moi je pense que les Français sont tout à fait conscients. Alors il y en a peut-être qu'on en a marre du terrorisme, qu'on en marre de tout ça, mais je pense que quand on va parler avec les gens... Vous savez, quand j'étais jeune, dans le métro, et j'entendais à chaque fois, moi j'avais une housse avec une trompette un peu bizarre, j'étais jeune, barbu, avec ma capuche et tout, et dès qu'on entendait dans le métro, attention, des pickpockets sont susceptibles de machin d'agir ici, les gens me regardaient bizarrement. Et en fait, moi j'ai découvert que dès qu'on me regardait bizarrement, en fait, j'enlevais ma capuche, j'allais voir les gens, je leur disais, excusez-moi, vous auriez l'heure s'il vous plaît. Et là, d'un seul coup, la personne à mes côtés, une femme de 70 ans par exemple, qui me regarde bizarrement, d'un seul coup, elle est détendue. Elle se dit, ah, mais en fait, il est gentil. Et en fait, quand on parle avec les gens, quand on dialogue avec les gens, ça détend absolument tout. Et pour revenir juste sur la question du métissage et de la peur actuelle du multiculturalisme, il faut faire un peu d'histoire, en fait. C'est juste ça. Faut faire un peu de culture, un peu d'histoire. Moi, je parle aux gens qui sont conservateurs dans le milieu de la musique classique en leur rappelant que l'orchestre symphonique qu'on bénit dans la musique classique, qui est devenu un objet sacré
de la musique. C'est une cathédrale.
C'est une cathédrale du monde de la musique. C'est le Philharmonique de Berlin. c'est Chicago, c'est l'Orchestre National de France, etc. Et ben ces gens-là, dès qu'on leur parle de l'origine de l'orchestre symphonique, et que c'est en fait une composition qui a été faite avec le temps, avec tous les instruments du monde, le hautbois, ça vient d'Asie, les timbales, ça vient d'Afrique, la flûte, etc. Tous ces instruments, le violon, ça vient du rabab, etc. Donc, quand on leur rappelle que l'orchestre symphonique qu'ils chérissent et qu'ils considèrent comme étant l'ADN et le chromosome de la musique classique qui est intouchable, qu'on leur rappelle que ça vient des musiques du monde entier et que c'est ce multiculturalisme qui a créé cette culture-là, d'un seul coup, c'est vrai qu'il n'y a plus d'arguments.
On va passer au standard avant de parler de votre album tout de suite. Catherine, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour Monsieur Malouf.
Bonjour.
J'appelle parce qu'en fait j'ai une petite fille qui a 10 ans, qui s'appelle Ella, et qui fait depuis un peu plus de 4 ans de la trompette, qui vit par sa trompette. Elle a essayé plusieurs fois de dormir avec. Elle demande à chaque anniversaire, chaque Noël, une nouvelle embouchure, une nouvelle trompette, avec des nouveaux dessins, etc. Vous êtes accroché sur ces murs avec, à côté, Pierre Dutot. Et donc, je voulais avoir, enfin, connaître la réponse à deux questions. La première, comment est-ce qu'on fait pour avoir une trompette à quatre pistons? Parce qu'elle a bien, bien remarqué que vous aviez une trompette à quatre pistons et que, à côté de chez nous, le vendeur de trompettes n'en a pas. Et puis, quel conseil vous pouvez lui donner, sachant que, voilà, elle est une fille, elle a 10 ans, il n'y en a pas beaucoup de filles dans son conservatoire, même autour quand elle fait des stages. Et c'est bien dommage. Et puis voilà. Globalement,
merci.
Quel conseil vous pouvez donner à une apprentie trompettiste?
Merci beaucoup, Catherine, et coucou à la petite Ella. Ibrahim Malouf vous répond.
Mais d'abord, elle a raison, Ella, parce que la trompette, c'est un instrument qui est fabuleux, qui est très, alors, voilà. Moi, je pense être un bon ambassadeur de cet instrument parce que je n'aimais pas du tout la trompette lorsque j'étais jeune, et j'ai fini par aimer cet instrument, et je sais pourquoi, du coup. C'est un instrument qui peut être très doux et en même temps très puissant. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais elle a bien raison, la petite Ella, de faire cet instrument. Écoutez, alors concernant
les quatre pistons,
non, malheureusement ça n'a pas été commercialisé aux grandes dames de mon père qui rêvait il y a encore 50 ans en inventant cet instrument que tout le monde en jouerait parce que ça n'enlève rien justement à la possibilité de jouer de la musique classique ou du jazz ou de la salsa. C'est quelque chose qui est en plus et qui permet de jouer les musiques du monde et les musiques avec les quarts de ton. Donc j'espère vraiment, il y a de plus en plus maintenant de fabricants un peu partout dans le monde qui commence à en faire aux Pays-Bas, aux États-Unis, etc. Donc, faut, en se renseignant un peu, vous allez en trouver. Mais elles sont malheureusement un tout petit peu chères encore.
Alors, First Noël, Ibrahim Malouf, c'est le titre de votre 15e album qui s'inscrit dans la tradition, la grande tradition des albums de Noël. Pourquoi avoir voulu la rejoindre, cette tradition?
Je voulais faire cet album-là déjà il y a 12 ans, au moment de la naissance de ma fille Lily. Et puis, j'ai pas pris le temps de le faire. J'étais dans plein d'autres choses, des tournées, d'autres albums, etc. Et là, mon fils est né il y a 5-6 mois. Et je me suis dit, ben voilà, cette fois, je vais pas me rater. Je veux vraiment lui faire un Noël, son premier Noël. Et aussi parce qu'on vit, encore une fois, une époque que je trouve un peu difficile et qu'il faut amener un peu de magie dans tout ça. Noël, c'est la magie. Mon fils s'appelle Naël. J'avais envie qu'il y ait dans sa vie beaucoup de magie aussi. Et donc, voilà, je me suis dit, c'est le moment. Apporter un peu de douceur dans ce monde assez brutal et d'accueillir cet enfant avec cette douceur-là et à cette magie.
Allez, on en écoute un extrait. Let it snow, let it snow. Pourquoi avoir choisi ce standard?
Dans cet album, on fête Noël, mais un peu à ma façon. Il y a des standards de jazz, de Noël. Il y a des standards de la musique classique qu'on écoute à Noël, des Ave Maria, etc. Il y a un peu de musique syriaque. Il y a un peu de mes compositions. J'ai composé 3 morceaux de Noël en espérant que les gens soient touchés aussi par ça. C'est une sorte de grand mélange assez œcuménique, pardon, ouais. Et qui symbolise un peu ma manière de voir le monde et de voir Noël et de voir, et en tout cas, de voir l'avenir de nos enfants.
Ça suscite quel souvenir chez vous, Noël?
L'enfance.
Ouais, c'est ça. Mais vous racontez que votre père considérait que vous deviez fêter Noël de manière modeste en France, par respect pour les enfants du Liban qui eux n'avaient pas la chance de pouvoir fêter Noël en grand. C'est revenu à votre mémoire en composant cet album.
Bien sûr.
Votre fils qui évidemment vit dans un autre contexte.
Oui, alors je rappelle quand même, c'est un album de Noël qui est destiné à tout le monde, pas qu'aux enfants.
Bien sûr.
Mais Noël, c'est quand même aussi la magie des enfants. Vous savez, hier par exemple, en plein concert de Zénith, on a joué Petit Papa Noël. D'un seul coup, j'ai vu tous ces gens en train de chanter avec les yeux qui brillent. Donc ça parle vraiment, vraiment à tout le monde. Mais c'est vrai que l'enfance, Noël et l'enfance, c'est quand même quelque chose de fort. Et nous, quand on était jeunes, c'est vrai que mon père avait tendance un peu à nous dire qu'on n'avait pas tout à fait, enfin qu'on pouvait pas vraiment fêter Noël normalement. Mmh. Parce qu'il fallait quand même penser à nos frères, à nos cousins, à nos sœurs, à nos cousines, etc. Là-bas, qui vivaient sous les bombes. Et on a eu tout le temps ce sentiment de culpabilité quand on fêtait Noël. Et aujourd'hui, vous voyez, à 41 ans, je commence à fêter Noël comme il se doit.
Giorgio au standard, bonjour, bienvenue.
Bonjour Nicolas, bonjour Léa et bonjour Yves.
Bonjour.
Je suis ravi de vous parler. On était dans la salle hier soir, on était dans la fosse aux Zénith avec Hélène. Juste devant vous, légèrement à droite. Je sais que vous voyez très bien qui nous sommes. Ma question est la suivante. Vous avez parlé de votre grand-mère hier soir. Vous avez parlé de votre bébé et du fait qu'elle a fêté sans Noël. Et lui, ce sera un Noël sans elle. Qu'est-ce que vous auriez aimé que votre fils puisse lui raconter s'il s'était croisé de la France de 2050?
Merci, Giorgio, pour cette question. Ibrahim Malouf vous répond.
Enchanté Giorgio, merci d'avoir été avec nous hier soir.
Il y en a beaucoup au standard des auditeurs qui étaient au concert hier soir.
Mais j'espère, en tout cas, je sais pas, j'espère que d'abord j'aurais aimé que elle lui raconte beaucoup de choses de la vie, parce qu'elle avait tellement de choses à raconter. Ma grand-mère, avec qui j'ai passé 3 années extraordinaires, elle a habité à la maison chez moi pendant 3 ans à la fin de sa vie, et on a passé des moments vraiment extraordinaires, surtout pendant le confinement où on s'est retrouvés tous les deux à la maison à papoter. Et je sais pas, j'espère simplement que de là où elle sera quand même fière de nous et du monde qu'on va léguer à nos enfants. Et qu'on va réussir à relever les défis qui s'imposent à nous. Et d'ailleurs, je pense vraiment que l'improvisation, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, l'improvisation peut vraiment nous aider à trouver des solutions en dehors de codes qui parfois sont complètement dépassés. Quand on plonge dans le passé pour trouver des solutions, c'est toujours mauvais signe. Mmh. Il faut toujours avoir cette créativité pour nous libérer un peu des codes et pour essayer de trouver des solutions adaptées au monde dans lequel nous sommes, plutôt que d'aller chercher des solutions qui auraient existé il y a 300 ans ou 600 ans.
Voilà, cette esthétique avait donc évidemment un versant politique. Merci Ibrahim Malouf, Petite philosophie de l'improvisation aux éditions des Équateurs. First Noël, le titre de ce 15e album, et le mot de la fin à Sandy qui vous dit merci pour le Zénith hier soir. Magie, what a wonderful world. Hâte de découvrir la suite.
Merci à elle et merci à tous.
Merci à vous d'avoir été là ce matin.